Voilà, donc on va commencer par partager un texte dans le livre de la Genèse, chapitre 32, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Genèse 32, à partir du verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Péniel signifie la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Voilà. Je voudrais partager avec vous ce soir un message sur le thème de la transformation. Le passage qu'on vient de lire nous révèle comment Jacob a été transformé. Avant ces événements, Jacob avait une certaine vie. Après ces événements, Jacob aura une autre vie. Et d'ailleurs, il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Et on va voir au travers de la situation et de la vie de Jacob comment Dieu opère de grandes transformations en chacun de nous. Avant que nous rencontrions Jésus, nous étions une personne. Après l'avoir rencontré, nous sommes une nouvelle personne. Et ce qu'on pourra retenir aussi, c'est qu'on verra qu'au fil de l'histoire de Jacob, Dieu a toujours été présent. Même quand Jacob peut-être manquait de fidélité envers Dieu, manquait de reconnaissance envers Dieu, mais Dieu a toujours été là pour lui. Alors, peut-être on va d'abord parler de l'histoire de Jacob. Jacob est né, donc c'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Donc il est né d'une lignée d'élus de Dieu, d'hommes qui avaient des alliances avec Dieu. Et donc il est né un second après son frère jumeau qui était son aîné, c'est-à-dire Ésaü. Donc à sa naissance, on l'appela Akeb, Akub, ce qui signifie talon. Son frère étant sorti en premier, il tenait son frère par le talon. Dans la Bible, on donne souvent des prénoms en mémoire d'une anecdote ou d'un passage de la vie d'une personne. Bien Jacob, au début de sa vie, s'appelait Akeb, ce qui signifie talon. Puis après, le temps va passer et il va se produire des événements dans la vie de Jacob qui fait que son nom va évoluer. La Bible dit dans Genèse 25, verset 27, que Jacob était un homme tranquille. Et donc, tranquille, ben, ça veut dire, quand on prend le terme hébreu, qui est tam, mais que c'était un homme intègre, que c'était un homme parfait, que c'était un homme saint. Donc, de sa naissance, où il est appelé talon, jusqu'à son âge adulte, Jacob était un homme tranquille. Et petit à petit, dans sa vie, vont se produire des événements qui font que son prénom va évoluer, alors qu'il s'appelait Akeb, il va évoluer vers Jacob, et plus tard Jacob, qui signifie plutôt le tricheur, le trompeur, celui qui supplante, parce qu'il va se produire des événements qui font que ce nom va évoluer. Notre nom, parfois on a des surnoms, ça se pratique de nos jours, donc on a des surnoms qui correspondent aussi à une anecdote, une façon que l'on a de parler ou une façon d'être que l'on peut avoir. Et parfois, il peut arriver que le surnom qu'on donne à un enfant, ben, le suive et un peu plus tard, ben, ce surnom reste et peut marquer la vie de la personne. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour Jacob, puisqu'à force de se faire appeler Jacob, tricheur, trompeur, ben, il va finir par le devenir vraiment. Donc il va se produire une première tromperie, ça se situe dans Genèse 25-29. Première tromperie, son frère Ésaü, qui est un chasseur, Jacob, lui, plutôt à la maison, on va dire, à s'occuper des affaires de la famille. Mais Ésaü, lui, c'est un chasseur. Donc, c'est le rôle d'Ésaü dans la famille. Il part, il va chasser du gibier. et il ramène du gibier, ce qui plaît beaucoup à son père d'ailleurs. Et un jour qu'Ésaü était parti à la chasse, lorsqu'il va revenir, Jacob, qui était resté à la maison, avait préparé un plat, un plat de lentilles. Et donc Ésaü, qui est affamé en revenant de la chasse, va demander à Jacob de lui donner de ce plat de lentilles. Et Jacob va faire preuve de ruse, il va utiliser la ruse pour tromper son frère. Et il va lui dire, eh bien, si tu veux de ce plat de lentilles, je vais t'en donner, mais en échange, tu vas me donner ton droit d'aînesse. Puisqu'Ésaü était né en premier, donc il avait le droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse, c'est un droit important à cette époque-là, puisqu'il est censé donner toutes les bénédictions, celles d'Abraham, celles d'Isaac, elles sont censées aller à Ésaü, qui est le fils aîné. Et en fait, par la ruse de Jacob, ce droit d'aînesse va être transféré d'Ésaü à Jacob. Et on voit là déjà un premier défaut spirituel de Jacob, qui n'a pas hésité à faire preuve de ruse, à tromper son frère pour récupérer quelque part les promesses de Dieu, puisque Dieu avait une promesse sur la vie de Jacob, mais Jacob a voulu se l'accaparer par lui-même, par sa ruse. On peut même penser qu'il a usé de la, il a abusé de la faiblesse de son frère, qui lui a été prêt à donner son droit d'aînesse, quelque chose de très important, quelque chose qui avait une grande valeur, contre un simple plat de lentilles. Donc ça, c'était la première tromperie. La deuxième tromperie, qu'on peut qualifier de honteuse, c'est une tromperie qu'il va réaliser avec la complicité de sa mère, Rebecca, toujours contre son frère Ésaü, mais ils vont abuser tous les deux de leur père, Isaac, qui dans sa vieillesse était devenu aveugle. Donc Jacob va se vêtir de peau de bête, de peau d'animaux, puisque Ésaü était velu. Ésaü veut dire velu, poilu. Donc il avait revêtu ses pères de ses peaux de bête, et par là même il avait trompé son père en se faisant passer pour Ésaü et pour une fois de plus usurper la bénédiction qui était censée revenir à Ésaü. Et donc c'est ce qui va se passer. Isaac va bénir Jacob, et lorsque Ésaü va l'apprendre, il va être rempli de haine jusqu'à vouloir la mort de son frère Jacob. Et donc Jacob va fuir. Le résultat de ces deux tromperies, c'est que Jacob va devoir fuir la haine d'Ésaü, la colère d'Ésaü. Et pour fuir, il va partir chez son oncle Laban, qui se trouve dans une contrée qui s'appelle Charan. Charan veut dire la montagne. C'est une ville qui est plutôt dans le nord, au nord d'Israël, même au nord de la Syrie. Donc très éloigné de là où il se trouve actuellement, puisqu'ils sont à Beersheba, qui est plutôt une ville située dans le sud d'Israël. Donc Jacob fuit. Et en conséquence de ces deux tromperies, la famille est complètement dissoute, elle est détruite, puisqu'Ésaü aussi va partir de son côté. Et les parents vont se retrouver tout seuls, très certainement en plus avec le poids de la tromperie de Rebecca envers Isaac. Et donc, Jacob part vers Charan. Et il y a un événement, donc quand je disais tout à l'heure que Dieu n'a jamais abandonné Jacob, dans Genèse 28, Jacob fait un rêve. Il rêve sur le chemin de Charan, il rêve d'une échelle qui part du sol, qui va jusqu'au ciel, et des anges montent et descendent de cette échelle. Et à cette occasion, donc Dieu va lui parler, Dieu va lui dire qu'il a des promesses pour lui, qu'il aura une descendance nombreuse, qu'il ne l'abandonnera pas. Et à ce moment-là, Jacob fait un vœu à l'Éternel en lui disant « Si tu me conduis jusque chez mon oncle et qu'un jour tu me permets de revenir en paix auprès de mes parents, alors tu seras mon Dieu. » Et ce vœu aura des conséquences, on va le voir. Dieu restera toujours fidèle. Il tiendra sa promesse envers Jacob et cette promesse se réalisera. Donc Jacob, le trompeur, s'en va. Il quitte la maison familiale et il part donc chez son oncle à Charan. Et là, il va se produire l'effet inverse, c'est-à-dire que Jacob, qui était le trompeur, va devenir le trompé. Il va avoir affaire à son oncle Laban, qui est très malin. Donc Laban a deux filles. Léa et Rachel, et Jacob va tomber amoureux de Rachel et jusqu'à demander la main de Rachel auprès de Laban. Et en retour, Laban va dire « D'accord, tu épouseras ma fille, cependant je te demande pendant 7 ans de travailler pour moi. » C'est ce qui va se passer. Donc Jacob va travailler pendant 7 ans et au terme des 7 ans, eh bien, le mariage est annoncé. Cependant, Laban, qui est encore plus malin que Jacob, encore plus rusé, va tromper à son tour Jacob, et au lieu d'épouser Rachel, donc sans le savoir, c'est sa sœur Léa qu'il va épouser. Donc j'imagine la surprise de Jacob quand il s'est rendu compte de la supercherie. Il a dû être vraiment surpris. Mais quelque part, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Donc, c'est celui qui avait trompé, qui à son tour devient trompé. Et donc, Laban va dire à Jacob, voilà, donc c'était ma fille aînée, donc il fallait respecter ce droit d'aînesse. Et c'était elle qui devait se marier en premier, mais tu peux toujours te marier avec Rachel. Pour cela, il faudra que tu travailles 7 ans de plus. Et Jacob va travailler 7 ans de plus. Donc, il était très amoureux, puisqu'il va travailler pendant 14 ans pour pouvoir enfin se marier avec Rachel. C'est ce qui va se produire, donc. On peut noter, toutefois, que Jacob se marie avec 2 femmes, qu'il aura également des enfants avec 2 servantes, une servante de Rachel, une servante de Léa. On voit aussi que Jacob ne respecte pas la loi de Dieu, puisque la loi de Dieu instituait le mariage entre un homme et une femme. Voilà, donc il va rester plusieurs années chez son oncle Laban, et au bout de 20 ans, Jacob a prospéré, puisque son oncle Laban élève des troupeaux, il confie des troupeaux à Jacob, et Jacob va prospérer chez Laban, tant et si bien qu'au bout d'un moment, Laban lui-même devient jaloux de Jacob. Dans Genèse 31, au verset 3, Dieu dit à Jacob de partir. Dieu dit à Jacob de partir, encore une preuve que Dieu n'a pas oublié Jacob, il lui dit de partir devant cette situation qui est en train de tourner au vinaigre, c'est-à-dire que Laban commence à devenir jaloux de Jacob. Le conseil de Dieu envers Jacob, c'est de partir. Alors Jacob aurait pu recevoir simplement ce conseil, recevoir le conseil de Dieu et obéir, mais dans Genèse 31, au verset 21, il est écrit que Jacob s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il est même dit un petit peu avant que Jacob trompa Laban. Donc le naturel, si on peut l'appeler comme ça, de Jacob, qui est celui d'un caractère trompeur, va revenir. Jacob va tromper Laban. Il va prendre sa famille, ses enfants, et ils vont partir en fuite. Pendant que Laban est absent, ils vont partir et ils vont quitter le domicile de Laban. C'est même un petit peu plus mauvais que ça, puisque Rachel va voler des téraphimes, ce sont des statuettes qu'avait Laban, et donc ils vont lui voler. Enfin, en tout cas, Rachel va les lui voler, et ils vont partir avec. Donc les relations ne sont quand même pas bonnes. Donc il y a quelque chose de mauvais dans ces relations qui sont faites de jalousie de la part de Laban, de tromperie de la part de Jacob et de sa famille. Et donc Jacob fuit avec sa famille. Laban va se mettre à leur poursuite, il va les retrouver, il va les rattraper. Donc il y aura des discussions, il y aura besoin d'une mise au point. Mais finalement, Laban et Jacob ainsi que sa famille vont se réconcilier. Le destin de Jacob, lui, c'est de retrouver ses terres natales, de retrouver sa famille et que la promesse de Dieu se réalise. Sur le chemin qui mène Jacob vers ses terres natales, Dieu envoie des anges. Donc on est dans Genèse 32, versets 1 et 2. Donc Dieu envoie ses anges afin de confirmer à Jacob que c'est le bon chemin, que c'est le bon choix que de revenir sur ses terres natales. On voit là encore un exemple de la fidélité de Dieu, du fait que Dieu, malgré qu'on ait affaire à un Jacob trompeur qui a encore trompé Laban et qui insiste avec ce caractère trompeur, on voit que Dieu est toujours présent, que Dieu parle toujours à Jacob. Jacob, lui, il a peur de rencontrer Ésaü. Il a peur de revoir Ésaü. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son frère. Il l'a laissé dans des circonstances mauvaises puisqu'ils étaient tous les deux fâchés, on peut dire fâchés, et même Ésaü voulait la mort de son frère. Et donc Jacob craint de retrouver Ésaü. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Toujours une ruse, une stratégie. Il va faire devancer ses pas par ses hommes, on va dire son clan, sa troupe, et il va les disposer à quelques kilomètres d'écart les uns des autres avec des cadeaux, des présents à destination d'Ésaü. Et il se dit, mais quand Ésaü va les rencontrer les uns après les autres, avant qu'il arrive jusqu'à moi, il aura eu plusieurs cadeaux, plusieurs présents, et qui vont lui faire se souvenir de moi en bien, et quand nous rencontrerons, eh bien ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'est la tactique, on va dire, de Jacob. Et il y a un fait nouveau dans l'attitude de Jacob sur ce chemin du retour qui va se produire. On est dans Genèse 32, versets 9 à 12. Jacob va prier. Donc on va lire ensemble la prière de Jacob. Il dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant, je forme 2 camps. délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai la postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Ce qui est nouveau, ce que l'on voit là depuis le début de l'histoire, à partir du moment où il est parti chez Laban et puis ce retour, c'est que l'on voit un Jacob qui prie face à Dieu, qui est humble. Il dit, je suis trop petit pour tes grâces et ta fidélité. Il reconnaît sa faiblesse devant Dieu. Il est sincère également puisqu'il dit, je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. Donc il expose clairement sa crainte et son besoin à Dieu. Il est reconnaissant également, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit. Il se tourne vers Dieu avec un cœur reconnaissant. On sent qu'il y a un caractère qui est en train de changer chez Jacob. Il s'abandonne à Dieu quand il dit « délivre-moi ». Il compte vraiment sur le secours de Dieu, sur la bonté de Dieu. Il se repent, il est rempli de foi, il se rappelle les promesses de Dieu. Et c'est, je crois, ce que Jésus nous invite à faire, chacune et chacun, à venir vers lui, en lui laissant la place, en lui laissant toute la place qu'il mérite en nous, quand nous nous retrouvons dans la prière, quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Je crois qu'il est important que, et c'est l'exemple je crois que nous donne ici Jacob, qu'on fasse le vide en nous pour laisser toute la place au Seigneur. Donc là, on a un Jacob qui, pendant des années, a trompé son entourage, a trompé sa famille, et la situation est en train de changer, puisque on va voir que après ces événements, il y a une paix qui va arriver, une paix avec son frère Ésaü, il va retrouver sa famille. Il acceptera de revenir vers sa famille en assumant ses erreurs du passé, et c'est peut-être ce qui a changé, parce qu'il sait que s'il ne fait pas ce pardon, s'il n'obtient pas ce pardon, il ne sera jamais en paix. Ce qui a changé aussi, c'est qu'il est à présent père de famille, il a de nombreux enfants, très certainement que ces enfants que lui a donné le Seigneur l'ont aussi aidé à grandir, à devenir plus mature. Donc il revient vers son pays natal, et donc il va s'approcher du torrent de Jabbok. Jabbok signifie celui qui se vide. Et donc c'est au torrent de Jabbok qu'il va rencontrer Dieu, et c'est à cet endroit qu'il va avoir un face-à-face avec Dieu, et il baptisera donc cet endroit Péniel, la face de Dieu. Donc il va se retrouver vraiment dans une situation qui va aboutir à une transformation complète et totale de son être intérieur, de son âme. Et donc il y a cinq conditions. J'ai noté cinq conditions qui, on peut relire peut-être le verset initial, donc Genèse 32, verset 22. Il se leva la même nuit, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, il passa le gué de Jabbok, il les prit, il leur fit passer le torrent et il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Le premier élément que j'ai noté, c'est que Jacob va se retrouver seul avec Dieu. Et cette solitude, elle est importante. Il fait traverser toute sa famille et il est dit tout ce qui lui appartenait pour se retrouver seul avec Dieu. Et à ce moment-là, étant seul face à Dieu, étant seul en présence de Dieu, il est prêt à lutter pour sa bénédiction. Matthieu 6,6 nous dit que quand nous prions, nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier. Et notre Père qui est là dans le lieu secret nous le rendra. Le face-à-face avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu, être seul dans la présence de Dieu, c'est des moments qui sont indispensables. Parce que c'est dans ces moments que l'Esprit va se révéler à nous. C'est aussi dans ces moments que nous pouvons nous révéler à Dieu tel que nous sommes. Dieu nous connaît, mais il a besoin d'entendre ce qui est en nous. Il a besoin de l'entendre de notre bouche. Et des prières secrètes que nous ne faisons que quand nous sommes seuls dans la présence de Dieu. Et ces prières-là doivent s'exprimer. Même si Dieu lit dans les cœurs, Jésus lisait dans les cœurs, mais malgré cela, Dieu veut entendre de notre part, de notre bouche, de notre cœur, ce que réellement nous voulons nous faire pardonner, ce que réellement nous voulons changer en nous, ce vraiment sur quoi nous attendons sa bonté, sa bénédiction, parce que lui, il peut opérer des transformations en chacun de nous. Donc la solitude, être seul avec Dieu, c'est le premier élément, je crois, qui a permis cette transformation chez Jacob. Le deuxième, c'est le torrent. Il est donc au torrent de Jabbok, celui qui se vide. Donc celui qui se vide, alors tout est imagé dans la Bible, mais tout a vraiment du sens et de la connotation. Il est à l'endroit, au bon endroit pour se vider, laisser partir ce qui est en lui et laisser l'Esprit de Dieu pénétrer en lui. C'est le bon endroit. Et on l'a dit, il est parti de Charan. Charan signifie la montagne. Donc il est parti des hauteurs. Il est parti des endroits élevés. Et là, il est descendu. Il est au plus profond de la vallée. Il est près du torrent. Et c'est l'endroit aussi où nous avons rendez-vous avec le Seigneur. C'est vrai que les hauteurs, souvent, signifient se rapprocher de Dieu. Souvent, il y a cette image-là dans la Bible. Là, la montagne, les endroits élevés sont des endroits où les hommes vont pour se rapprocher de Dieu. Je crois qu'il est important aussi qu'on soit capable de descendre au plus profond de nous-mêmes pour regarder ce qui s'y trouve et le présenter devant Dieu. Troisième élément, c'est la nuit. Donc tout se passe dans la nuit. Et tout doit se terminer avant la nuit, puisqu'à un moment donné, il arrive un moment où l'homme qui se bat avec Jacob dit « il faut s'arrêter parce que le jour va se lever ». Dieu travaille dans la nuit. Dieu fait des choses dans le secret. Pour imaginer cette pensée de la nuit, j'ai pris l'image d'un enfant qui va naître. Avant de naître, l'enfant il est dans le ventre de sa mère. Et étant dans le ventre de sa mère, il est dans l'obscurité. Il ne connaît pas la lumière. Il ne l'a jamais vue. Et pour pouvoir naître, pour venir à la vie, il va devoir passer de l'obscurité à la lumière. Et cette histoire de Jacob me fait penser quelque part à cette naissance-là. Jacob allait naître de nouveau, et pour pouvoir naître de nouveau, il fallait qu'il passe de l'obscurité à la lumière. Et il fallait que le combat prenne fin avant le lever du jour, pour qu'il puisse renaître dans la lumière. On ne peut pas rester, si nous naissons de nouveau, on n'est plus dans la nuit, par définition. Si on a reçu Jésus en nous, on a reçu la lumière. Donc on n'est plus dans la nuit, ce n'est pas possible. Si nous sommes nés de nouveau, on est obligatoirement dans la lumière. Et Jésus n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus est la lumière du monde. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu dans l'obscurité, puisque le monde, par définition, c'est l'obscurité. Donc par cette nouvelle naissance, nous ne resterons pas dans l'obscurité, mais nous demeurerons dans la lumière. Le combat, par contre, il a lieu alors que nous sommes dans la nuit. Amen. Quatrième élément, c'est la détermination, puisque Jacob va lutter vraiment très très fort. Il va lutter farouchement pour obtenir sa bénédiction. Comme on dit, il ne va rien lâcher, il est vraiment déterminé, il ne va rien lâcher jusqu'à obtenir sa bénédiction. Il est dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc, il parle à Dieu, là, il s'adresse à Dieu, il lui dit, je ne te laisserai point aller, tu ne partiras pas. Donc, qui est Jacob pour dire à Dieu, tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas béni. Pourtant, il le fait, et ce qui prouve, je pense, c'est vraiment sa détermination. Il veut absolument sa bénédiction. La vie passée, il n'en veut plus. Il ne veut plus retourner à cette vie de trompeur, de tricheur, qui lui a tellement coûté, qui lui a tellement joué des tours. Là, désormais, il est vraiment déterminé à tourner la page, à passer à autre chose, et ce autre chose, c'est une vie avec Dieu. Est-ce que nous, de cette façon-là, nous sommes aussi prêts à lutter dans la prière? Il y a des combats à mener. On le disait, dans la solitude, dans l'obscurité, c'est des moments où personne ne nous voit, c'est des moments où nous sommes seuls en présence de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à mener ces combats jusqu'à obtenir la bénédiction, jusqu'à obtenir le secours de Dieu? En tout cas, Jacob le voulait, il a persévéré et il l'a obtenu. Le cinquième élément, c'est le prix payé, puisque Dieu va lui permettre d'avoir le dessus, mais en retour, il va payer un prix, Jacob. Donc sa hanche sera déboîtée. Et ça, c'est quelque chose qui va le marquer à vie dans sa chair, dans son corps. Une façon, je pense, pour lui de se rappeler qu'il devra se confier dans sa vie totalement en Dieu. Zacharie 4,6 dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Elle est faible, mais on a quand même une puissance physique, et ça ne compte pas. Pour ce que nous avons à accomplir et pour ce que Dieu veut que nous accomplissions les uns et les autres, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est est-ce que l'Esprit de Dieu est avec nous ou pas. Donc il y a un prix à payer pour nous tous qui avons des choses à réaliser, des choses que Dieu attend que nous fassions, il y a un prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Parce que Dieu, lui, ne fait rien par magie. Dieu n'agit pas par magie dans nos vies. Il n'agit pas par magie dans la vie des frères et des sœurs. C'est pas ça. Il agit en réponse à notre foi. Il agit en réponse à nos prières, oui, mais il n'agit pas par magie. Et donc, si on veut obtenir ces bénédictions-là, il y a un prix à payer. Il faut payer le prix de la bénédiction. Même le salut, on dit que le salut est gratuit, mais même le salut, il a un prix. Il a le prix de la repentance. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à payer ce prix, peut-être par orgueil, peut-être par fierté, peut-être par vanité, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ne sont pas payées, ne serait-ce que ce prix-là. Pourtant, le salut, il est gratuit. En tout cas, nous devons payer le prix. Voilà donc les cinq éléments qui vont aboutir à la situation dans laquelle Jacob va naître de nouveau. Jacob est un nouvel homme. Il va recevoir une double bénédiction. Genèse 32, 28 dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été le vainqueur. » Première bénédiction, donc il est vainqueur, il reçoit un nouveau nom, une nouvelle identité. Et Genèse 32, 30 « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » C'est Jacob qui parle. Donc la deuxième bénédiction, c'est le salut de son âme. Dans Apocalypse 2, 17, il est dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Comme on disait tout à l'heure, dans la Bible, le nom donné au personnage reflète la personnalité ou un événement dans leur vie. Et l'Apocalypse nous dit que, Apocalypse 17 nous dit que nous aurons un nouveau nom. Tous ceux qui seront nés de nouveau vont recevoir un nom nouveau. Nous porterons en nous un nouveau nom que nous donnera le Seigneur. Ésaïe 65, verset 15, le confirme et dit « Il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Et ce caillou blanc qui va nous être donné par le Seigneur, il est réservé aux vainqueurs. Comme Jacob qui a lutté et qui a reçu un nouveau nom, nous aussi nous recevrons un nouveau nom. Amen. C'est la promesse de Dieu et elle s'accomplira. Et ce nouveau nom ne sera connu de personne d'autre que de nous et de Dieu. Mais il y a plus encore, puisque Apocalypse 2, 17, je reprends, dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » La manne cachée. Comme Jacob a eu le salut de son âme, a obtenu le salut de son âme, nous recevrons le don de la manne cachée. La manne cachée dans le désert pour le peuple d'Israël, c'était le repas quotidien, c'était le repas providentiel. Ils n'avaient pas d'effort à faire. Tous les jours, ils avaient la manne, ils recevaient la manne et ils avaient de quoi se nourrir. Nous aussi, nous recevons chaque jour les bontés de Dieu, les promesses de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin, c'est ce que nous dit la parole. Et cette manne du désert, dans nos vies à nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le pain de vie. Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Le peuple dans le désert devait manger la manne tous les jours. Il ne pouvait pas garder de la manne et la manger deux ou trois jours après parce que les vers venaient et pourrissaient la nourriture. Mais nous, c'est pareil. Donc nous avons cette nourriture qui nous est donnée tous les jours et nous devons nous retrouver tous les jours dans la présence de Dieu et consommer tous les jours cette présence de Jésus dans nos vies. Sans penser que c'est la même nourriture qu'hier, parce qu'en fait, cette nourriture, elle se renouvelle tous les jours et les bontés de Dieu se renouvellent tous les jours. Amen. Donc une double bénédiction pour Jacob et une transformation, puisque là, on va voir qu'il se prosterne devant son frère. Donc celui qui était trompeur se prosterne devant son frère. Il obtient le pardon de son frère. Il y avait de la haine entre eux et c'est l'amour qui va être à présent entre eux. La paix va revenir, la réconciliation. Et Jacob, qui au départ signifiait la tromperie, laisse la place à Israël, ce qui signifie celui qui combat avec Dieu ou prince de Dieu. Et le peuple de Dieu s'appellera Israël, l'Israël de Dieu. C'est comme ça qu'on appellera le peuple, parce que Dieu aime que son peuple le recherche avec sérieux, avec persévérance dans la prière, comme l'a fait Jacob. Amen. Je terminerai en faisant un parallèle avec Jésus par rapport aux cinq éléments que je citais tout à l'heure, les cinq éléments qui ont caractérisé la transformation de Jacob. Seul, Jésus s'isolait souvent pour prier, pour être dans la présence de son Père. C'était une caractéristique qu'on retrouve souvent dans les évangiles. Le torrent aussi est présent, puisque juste avant de se rendre à Gethsémané, la parole nous dit dans Jean 18, verset 1, que Jésus descendit au creux de la vallée et qu'il traversa le torrent de Cédron, le cœur lourd, parce qu'il savait où il allait, il savait qu'il allait au-devant de son arrestation et de sa mort. Mais avant Gethsémané, il y a eu le torrent de Cédron. Et Jésus aussi est descendu près de ce torrent en totale soumission à son Père. À propos de la nuit, Jésus est venu dans la nuit parce que le monde, par définition, est la nuit. Le monde, par définition, est l'obscurité. Et Jésus est venu pour être la lumière de l'obscurité, dans l'obscurité. La détermination, on n'a pas de meilleur exemple que la détermination de Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Il était prêt à monter sur la croix. Il était prêt à subir les pires humiliations, les coups, les violences, les moqueries. Il est allé jusqu'au bout. Il a porté sa croix. Il s'est donné totalement pour nous. Même une fois qu'il était sur la croix et qu'il entendait des moqueries, il bénissait les gens qui étaient ses ennemis et qui se moquaient de lui. Il a prié pour ses bourreaux. Jusqu'au bout, il a intercédé auprès du Père afin qu'il soit pardonné. Et enfin, le prix payé. Et donc Jésus a payé le prix ultime. Il a accepté de mourir pour chacun de nous. Il s'est donné un sacrifice ultime pour que nous soyons libres à notre tour de nous tourner vers Dieu, pour qu'à notre tour, nous puissions faire mourir le vieil homme qui est en nous et que nous puissions renaître de nouveau. Amen. Voilà, que le Seigneur nous guide. Que le Seigneur nous guide à rester dans sa présence, vers cet torrent où il nous attend pour notre transformation. Peut-être que nous avons des montagnes à quitter, peut-être que nous sommes sur des endroits élevés, peut-être que nous sommes près de Dieu, mais loin aussi en même temps. Peut-être que nous avons besoin parfois de descendre près des torrents qui nous permettent à tous de trouver un jour ce lieu où nous pourrons faire le vide en nous, nous retrouver seul à seul avec lui, face à face avec lui, qui nous apprenne à prendre le temps d'être dans sa présence, de lui faire part de nos vrais besoins, capable de nous humilier devant lui, de lui faire part de nos besoins réels, mais aussi reconnaître nos torts, reconnaître nos défauts, reconnaître nos travers, reconnaître nos péchés. Il a besoin de l'entendre pour que vraiment nous payions le prix. Il y a un prix à payer et nous avons à payer ce prix. Dieu attend que nous payions ce prix et que notre homme intérieur meure et que Jésus prenne toute la place en nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cet exemple de Jacob, pour cet homme qui... et rester seul face à toi. Cet homme qui, à un moment donné, a dit « Je ne veux plus de ce passé, je ne veux plus de cette vie. Je veux un renouveau. Je veux la présence de Dieu dans ma vie. Et pour cela, je suis prêt à payer un prix. » Merci Seigneur pour cet exemple. Ce soir encore, nous croyons que tu voulais nous parler. Tu voulais nous dire que tu attends de nous une attitude de cœur, que tu attends de nous une assiduité dans la lecture de ta parole, dans la prière, dans le fait de rester dans ta présence. Seigneur, nous croyons que tu attends cela de nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur, à rester près de toi, Seigneur. Fais-nous du bien, parle-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes tellement faibles sans toi, Seigneur. Apprends-nous, éduque-nous, Seigneur. Montre-nous comment passer du temps avec toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire les bons choix aussi, Seigneur, car les occupations ne manquent pas, elles sont nombreuses dans nos vies, Seigneur. Et donne-nous cette faim de toi. Donne-nous cette soif de toi, Seigneur. Montre-nous ta présence dans nos vies chaque jour, Seigneur, que l'on puisse se rendre compte vraiment de cette manne qui est là, Seigneur, que nous ne l'ignorions pas, Seigneur, que nous ne pensions pas que cette manne est habituelle. Permets que nous ne nous habituions pas à cette manne, Seigneur, mais au contraire, que tous les jours nous apprécions à sa juste valeur ta présence dans nos vies et ce que tu nous amènes chaque jour, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. À toi revient toute la gloire, l'honneur et l'adoration de nos cœurs. Amen.